Bonjour à tous, ça fait plaisir d'être avec vous, certains qu'on connaît bien après avoir passé 3 ans avec vous ici, donc c'est un plaisir de vous revoir vraiment. Et je vous apporte les salutations de l'église Réformée et Baptiste du Grésivaudan, donc à Grenoble. On est content d'avoir pu passer quelques jours de week-end avec certains d'entre vous il y a 2 semaines, c'était vraiment très sympa et on espère que ça pourra se refaire par la suite. C'était vraiment un plaisir. Vous êtes très calme ce matin. J'ai plus l'habitude de ça en fait. À Grenoble, il y a tellement d'enfants que je dois me battre pendant la présidence pour que ma voix reste au niveau du cri des enfants. Donc là, ça me fait bizarre d'avoir le silence absolu. On va faire une lecture dans le livre des Actes. On va lire le chapitre 3 du livre des Actes et c'est sur ce passage que portera le message ce matin. Et donc, vous avez le droit de parler, de répondre même à mes questions si vous voulez pendant le message. C'est le droit de animer. Donc, Actes chapitre 3, les versets 1, et on va lire verset 1 jusqu'à la fin du chapitre. Donc, c'est le tout début du livre des Actes, vous connaissez certainement, c'est le début de l'Église, hein, c'est vraiment le tout début. Les premiers disciples se convertissent, il y a 3000 personnes qui sont converties le jour de la Pentecôte, et on est vraiment juste dans la suite de ça. Acte 3, verset 1. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit: Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, en sautant et en louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, stupéfait, accourut vers eux. Au portique appelé de Salomon. Pierre, à cette vue, dit au peuple: Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit: Le Seigneur, votre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont parlé, depuis Samuel et ses successeurs, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham: toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est à vous, premièrement, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Voilà, jusqu'ici cette lecture, et je vous invite à la prière encore. Prions. Seigneur éternel, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est claire et vivante aujourd'hui comme il y a 2000 ans. Nous te prions, Seigneur, que tu la rendes vivante à nos cœurs. Tu vois comme nous sommes parfois bien tièdes le dimanche matin et occupés, affairés dans nos esprits à toutes sortes d'autres choses. Nous te prions, Seigneur, de diriger nos pensées sur ta parole, que nous puissions voir de manière nouvelle et fraîche ta gloire et ta grâce manifestée en Christ. Amen. Alors, l'histoire de l'Église, comme l'histoire d'un pays ou d'un homme célèbre, c'est pareil. L'histoire de l'Église, elle est faite aussi de récits apocryphes, c'est-à-dire des histoires dont on ne sait pas si elles sont vraies ou non. C'est des histoires qu'on s'est transmises de bouche à oreille pendant des siècles. Et à force, on ne sait plus tellement si à la base elles ont été inventées ou si elles étaient bien réelles. Et on raconte justement une de ces histoires au sujet de Thomas d'Aquin. C'était ce grand théologien du Moyen-Âge, hein, Thomas d'Aquin. On raconte qu'un jour, il était en visite chez le pape au Vatican, le pape Innocent IV. Et le pape lui aurait fait une visite guidée de toutes les richesses accumulées par l'Église au Vatican. Donc vous imaginez les tas de richesses empilées sur les tables dans les coffres à Rome. Et le pape lui aurait dit ceci, il aurait dit « Vous voyez Thomas, l'Église ne peut plus dire « Je ne possède ni argent ni or ». Et Thomas, on raconte que Thomas lui aurait répondu « Oui, Saint-Père, mais elle ne peut plus dire non plus « Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche ». Pas mal hein, la réponse. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, peu importe si c'est une histoire vraie ou non. En tout cas, ce qu'elle nous dit implicitement, c'est ça, c'est que ce miracle est plus important qu'il n'y paraît. Ce n'est pas qu'un tour de passe-passe, si vous voulez. Il nous enseigne quelque chose, puisque Thomas estimait que l'Église au Moyen-Âge ne pouvait plus dire « Au nom de Jésus, lève-toi et marche », et il pensait que c'était un problème. Alors à quoi est-ce qu'il pensait ? Qu'est-ce que l'Église ne faisait plus ? Vous pouvez le deviner, mais on va le voir ensemble au fur et à mesure, en regardant donc à ce miracle ici. Mais ça signifie donc qu'on ne va pas s'arrêter longuement sur le discours qui suit le miracle, je l'ai lu, mais on ne va pas s'arrêter longuement sur le discours. J'y ferai référence seulement dans la mesure où il nous aide à comprendre le miracle. J'attire juste votre attention sur un mot du discours, verset 26. Regardez, un mot qui résume tout le discours de Pierre. Pierre conclut en disant « C'est à vous, » et il parle aux Juifs, aux Israélites qui sont devant lui, « C'est à vous, premièrement, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. » Pour vous bénir. En détournant chacun de vous de ses iniquités. Qu'est-ce qu'il dit ? Il regarde les Israélites qui sont devant lui, il leur dit, est-ce que vous vous souvenez de cette promesse, cette grande promesse que Dieu a faite à Abraham, votre ancêtre ? Alors, c'est la toute première promesse que Dieu a faite à Israël, et qui englobe en fait toutes les autres, quand Dieu a dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Il leur dit, est-ce que vous vous rappelez de cette promesse ? Eh bien, c'est fait. C'est arrivé, c'est Jésus, la descendance. Et c'est lui donc que Dieu a envoyé vous bénir, vous premièrement les Juifs, puisqu'il parle à eux, et donc les autres nations ensuite. Il est, si vous regardez rapidement dans le discours, il est le Saint et le Juste, verset 14. Il est le Prince de la vie, verset 15. Il est le Christ, verset 20. Il est le prophète comme Moïse, verset 22. Il est la descendance d'Abraham, verset 25, etc., etc. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire ? Il est en train de leur dire, comme David l'a dit tout à l'heure, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Et je le relève simplement parce qu'on entend parfois que ça aurait pris des siècles et des siècles pour que l'Église développe tout un dogme autour de la personne de Jésus, de sa divinité, etc., qu'il était un simple homme finalement, mais que avec quelques siècles, finalement, dans l'imagination des gens et dans les écrits de l'Église, il serait devenu Dieu. Mais c'est clairement pas le cas ici. Est-ce que vous savez combien de semaines s'est passé depuis la mort et la résurrection de Jésus et ce discours de Pierre ? on ne sait pas exactement, mais quelques semaines, hein, 4-5 semaines, quelque chose comme ça, c'est très court, très court. Et déjà, Pierre dit, ce Jésus, voilà tout ce qu'il est. Il est le prince de la vie, Dieu fait homme pour notre salut. C'est extraordinaire ce qu'ils avaient déjà compris à ce moment-là. Donc ça, c'est pour le discours. J'y reviendrai plus, je citerai juste quelques versets encore par la suite, mais donc j'en viens au miracle. Et j'aimerais qu'on se pose trois questions en réfléchissant au miracle. Qu'est-ce qu'il accomplit, ce miracle? Qu'est-ce qu'il signifie? Et qu'est-ce qu'il produit? C'est trois questions qu'on va se poser. Donc d'abord, qu'est-ce que le miracle accomplit? C'est-à-dire, quelle est sa fonction, en fait? Et Pierre nous donne un indice au verset 6 déjà. Regardez lorsqu'il nous dit ceci au verset 6. Quand il voit la personne qui lui demande l'aumône, il dit, je ne vais pas te donner de l'or et de l'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et puis au verset 12 encore, regardez, une fois que le miracle a eu lieu, tout le monde est étonné. Il leur dit, mais pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme? Et puis verset 16 encore. Il enfonce le clou, on pourrait dire, il dit au verset 16, c'est par la foi en son nom, le nom de Jésus, que son nom même, le nom de Jésus, a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose d'essentiel même pour nous encore aujourd'hui. Parce que vous voyez, pour beaucoup aujourd'hui au XXIe siècle, les miracles dans la Bible, ça les met dans l'embarras un peu. Qu'est-ce qu'on va faire de ça aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore y croire? Aujourd'hui, dans votre ère moderne, scientifique, etc. Et la tentation, c'est de penser, et peut-être que vous êtes tenté de penser ça, je pense que c'est la tentation pour beaucoup de chrétiens aussi, c'est de se dire, bon, le miraculeux, tout ça, dans la Bible, c'est la façon dont les gens de l'époque ont essayé d'expliquer, les gens de l'époque un peu crédules peut-être, ou superstitieux, ils ont essayé d'expliquer certains faits, mais c'est pas ça qui est important. Mettons-les de côté, ignorons-les, ces miracles, et essayons de revenir au sens vrai, au sens spirituel du passage. Est-ce qu'on peut faire ça? Pas vraiment. Pourquoi? Alors, il y a un sens profond, on va y venir tout de suite, dans le deuxième point. Mais on ne peut pas évacuer les miracles comme ça, comme s'ils n'avaient jamais eu lieu historiquement et réellement. Pourquoi? Parce que voilà ce que nous dit Pierre dans ces versets que je viens de vous lire. Il dit, ce miracle prouve que le message que nous annonçons est le message de Jésus. Il prouve que la puissance que nous démontrons, c'est la puissance de Jésus. Ça prouve que l'esprit que nous avons, c'est l'esprit de Jésus. Ce miracle, il a une fonction. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Pour prouver que nous avons le message, la puissance de Christ, on fait le même type de miracle que Jésus a fait en son nom. C'est une certification, un miracle. Hein, comme quand vous allez au supermarché et que vous achetez des produits certifiés AOP ou AOC, vous savez, les appellations d'origine protégée ou contrôlée. Ça fait quoi? Ça certifie simplement que c'est bien authentique, hein, que ça a été fait selon la recette d'origine, que ça vient de la région d'origine. C'est du vrai, en fait, c'est ça que ça veut dire. Et c'était la fonction des miracles dans la vie de Jésus, déjà, certifier qui il est. C'est ce que Pierre dit juste au chapitre d'avant. Je vous lis ce verset. Écoutez ce que Pierre dit lors de la Pentecôte. Il s'adresse à la foule et il leur dit, Israélites, écoutez ces paroles. Jésus, cet homme approuvé de Dieu devant vous, comment? Comment est-ce que Dieu l'a approuvé? Par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous. Cet homme, vous l'avez fait mourir, etc. etc. C'était la fonction des miracles dans la vie des apôtres aussi. Certifier leur message. Qu'ils sachent eux-mêmes déjà, ça c'était la première chose, mais qu'ils sachent eux-mêmes, mais aussi leurs auditeurs, et donc nous aussi aujourd'hui, que nous sachions que ce qu'on a dans le Nouveau Testament, c'est le message de Jésus. Je voulais juste un verset en Hébreux chapitre 2 verset 4, écoutez. Ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, c'est qui? C'est les apôtres. Dieu appuyant leur témoignage, comment? Par des signes et des prodiges. Hébreux chapitre 2 verset 4. Et c'est exactement ce que ce miracle accomplit ici. Pareil. Alors il attire l'attention des foules, évidemment, on les voit, on voit les foules qui sont attirées par ça, hein. Mais surtout il est là pour appuyer le témoignage, certifier le message des disciples. Et donc on ne peut pas juste évacuer les miracles comme ça, parce qu'ils nous embarrassent un peu, ou parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire aujourd'hui. On ne peut pas faire ça sans perdre, en fait, tout le reste du témoignage biblique. Ils ont une fonction. Et c'est une fonction qui explique, je fais une toute petite parenthèse, mais c'est une fonction qui explique aussi pourquoi on ne doit pas s'attendre, on n'a plus à s'attendre à des miracles comme celui-là aujourd'hui. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire quelque chose de miraculeux aujourd'hui, Dieu il est au ciel, il fait ce qu'il veut, évidemment, mais un don de guérison comme celui-là, on n'en a plus besoin. Pourquoi? Et parce qu'aujourd'hui, on peut savoir qui parle pour Dieu de sa part en comparant son enseignement aux Écritures. On n'a plus besoin de ça, des miracles. Et d'où l'importance de le faire d'ailleurs, de concrètement dans les églises, dans les rassemblements que vous pouvez avoir, dans les cours même à la fac, de comparer ce que vous recevez à ce que la Bible dit. De venir voir ceux qui vous enseignent et dire, dis donc, t'as dit ça? il me semble, je ne sais pas, est-ce que la Bible enseigne ça? Est-ce que tu peux me réexpliquer, de comparer, de faire ce travail-là? C'est ce qu'on doit faire en fait. Hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on établit qui parle pour Dieu. Donc, non pas en comptant le nombre de guérisons qu'il a faites, mais en comparant son enseignement à la Bible. Je ferme la parenthèse, mais c'était juste pour préciser ça. Peut-être que si les miracles nous embarrassent un peu parfois aujourd'hui aussi, c'est aussi qu'on peut. On ne comprend pas bien de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'un miracle, en fait? Est-ce que vous avez remarqué que dans le Nouveau Testament, les miracles ne sont jamais une simple démonstration de force? Jamais. C'est étonnant, d'ailleurs. On pourrait se dire, si la seule fonction des miracles, c'est ce que je viens de dire, c'est de dire, pour les apôtres, c'est nous les envoyés de Christ, on est ses apôtres, on a son message. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait des choses plus impressionnantes, plus extraordinaires? Pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais, on peut imaginer plein de choses, mais dans les évangiles, Jésus ou ses apôtres dire à la foule, voyez cette maison là-bas, par la seule force de ma pensée, tac, je vais la déplacer, paf, je vous la remets là. Ou un truc comme ça, vous voyez ce type-là, tac, vous ne voyez plus, pas mal. Hein, pourquoi on ne les voit pas voler au-dessus du temps? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on aurait pu s'attendre à des trucs tellement plus extraordinaires. Pourquoi est-ce qu'ils ne font jamais ça? Pourquoi leurs miracles ont toujours pour but d'atténuer la souffrance? Ce n'est pas des simples démonstrations de force. Ils ont toujours comme but de soulager la souffrance, guérir, nourrir, etc. Pourquoi? Parce que les miracles nous pointent vers la fin des temps quand Dieu rétablira toute chose. Et c'est exactement la fonction de ce miracle aussi. Remarquez les mots exacts que Luc utilise au verset 8. C'est vraiment frappant. Regardez le verset 8. Une fois que le miracle a eu lieu, cet homme se lève et il nous a dit au verset 8 que d'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, en sautant et en louant Dieu. Il marche, il saute même. Et c'est impossible que les gens qui étaient là au temple ne soient pas dit « Ah, Ésaïe 35. Ésaïe 35. » Vous vous rappelez le passage qu'on a lu au début du culte? Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce passage-là, où il était dit, où il était décrit comment Dieu rétablira toute chose à la fin des temps, où il était dit « Les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds s'ouvriront, alors le boiteux sautera comme un cerf. » C'était ça le verset exact, hein, Ésaïe 35. Et Pierre fait exactement le même lien dans son discours. Au verset 21, regardez, il dit « Ce rétablissement de cet homme, cette guérison, ça nous parle d'un autre rétablissement. » Au verset 21, il dit « C'est lui, Jésus, que le ciel doit recevoir » jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il leur dit, vous voyez ce rétablissement de cet homme? Eh bien, ça nous parle, ce miracle, il annonce un plus grand rétablissement, celui de la fin des temps. Donc voilà ce qu'on apprend par le miracle et l'interprétation que Pierre en donne aussi. Dieu n'a pas inventé la surdité, Dieu n'a pas inventé l'infirmité. Dieu n'a pas créé un monde de souffrance. Dieu n'a pas créé un monde d'injustice rempli de violence et de mort. Pensez au jardin d'Éden. C'est pas comme ça que les choses étaient à l'origine. Tout était bon, tout était très bon même. Et c'est quand on s'est détourné de Dieu pour vivre dans le péché, décider pour nous-mêmes ce qui est bien ou mal, c'est là, la Bible nous dit, tout s'est effondré. Que la pauvreté a été introduite dans le monde, que la maladie est apparue, la mort, etc. Alors qu'est-ce que ce miracle accomplit? Il nous dit simplement, Dieu n'est pas plus heureux avec le monde tel qu'il est que nous le sommes, nous, vous et moi. Il est autant en colère contre le mal et la souffrance que vous pouvez l'être. En fait, il est même beaucoup plus en colère avec le mal et la souffrance que vous ne pouvez l'être. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire de se rappeler ça dans nos souffrances? Et voyez, qu'est-ce qu'un miracle? Alors, si on se pose cette question, on entend parfois dire qu'un miracle, quand Dieu fait un miracle, c'est qu'il suspend l'ordre naturel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, un miracle, Dieu suspend l'ordre naturel. Pas vraiment. Quand Dieu fait un miracle, c'est pas qu'il suspend l'ordre naturel, c'est qu'il rétablit l'ordre naturel. C'est un rétablissement, c'est un retour à ce que Dieu a toujours voulu. Et en fait, on pourrait dire dans ce sens-là que les miracles de Jésus et des disciples, c'est les seules choses naturelles dans un monde contre nature, perverti par la chute, corrompu. Voilà ce que ce miracle nous dit. Dieu est contre la souffrance, il est déterminé à y mettre fin. Donc voilà sa fonction, voilà ce qu'il accomplit. Deuxièmement, deuxième question qu'on va se poser, qu'est-ce que le miracle signifie? Question importante. Regardez au chapitre précédent, au chapitre 2, verset 43. Il y a une précision qui est intéressante ici. On voit que donc au tout début, le jour de la Pentecôte, chapitre 2, verset 43, la crainte s'emparait de chacun dans le peuple. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Les disciples ont fait plein de miracles, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Mais un seul nous est rapporté, celui-là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Luc, qui écrit le livre des Actes, pourquoi est-ce qu'il a choisi de nous rapporter ce miracle seulement? Pourquoi ce miracle précisément? Qu'est-ce qu'il a de spécial? En fait, c'est le seul, même parmi les autres miracles qui nous sont rapportés ensuite du livre des Actes, parce qu'il y en a d'autres qui nous sont rapportés plus tard. Mais c'est le seul dont Luc précise qu'il est un signe. C'est un signe. Au chapitre suivant, on va pas lire ces versets, mais chapitre 4, verset 16, chapitre 4, verset 22, les chefs juifs qui ont emprisonné Pierre et Jean, parce que c'est ça qui se passe tout de suite après, hein, après le passage qu'on a lu, les chefs juifs viennent, ils arrêtent Pierre et Jean, ils les mettent en prison, et ils sont forcés d'admettre, dans le chapitre suivant, donc ces versets que je vous ai cités, ils sont forcés de dire, il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un signe évident a été accompli par leur entremise. Nous ne pouvons pas le nier. C'est ce qu'ils reconnaissent après. Et comme tout signe, vous pouvez penser au panneau signalisateur sur la route, hein, qui vous indique la direction pour Aix, pour Marseille, etc. Comme tout signe, un signe miraculeux dans la Bible, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, on ne roule jamais avec notre voiture vers un signe. D'accord? Le panneau, il nous indique l'endroit où on a envie d'aller. C'est pareil avec les signes dans la Bible. Il nous indique une vérité. Il signifie quelque chose. Alors, quelle vérité? Qu'est-ce que ce miracle ici nous enseigne? Je crois qu'il nous enseigne quelque chose sur notre condition humaine, sur la condition de l'homme sans Dieu. Réfléchissez une seconde. Qu'est-ce qu'on sait en fait de cet homme? C'est ce boiteux. Pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose, mais réfléchissez aux choses qu'on connaît de lui. On nous dit qu'il est boiteux de naissance. Il n'a jamais rien connu d'autre, il est né comme ça. On sait aussi que chaque jour, il venait faire la manche, il demandait l'aumône à la porte du temple appelée la Belle. Pourquoi on nous dit ça? Pourquoi on nous précise ça? C'est pas un hasard. Vraisemblablement, cette porte, elle séparait les parvis extérieurs du temple, des parvis qui étaient réservés aux païens, des parvis intérieurs où les sacrifices avaient lieu, où on pouvait entrer dans la présence de Dieu, en fait. Et il est là, à l'extérieur, finalement, bloqué. Pourquoi? Parce que les infirmes, les aveugles et les boiteux n'étaient pas acceptés à l'intérieur. Ils ne pouvaient pas entrer. Donc en bref, vous voyez, il est rongé par un mal héréditaire de naissance qui l'empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on n'a pas là une image de ce que la Bible décrit comme notre condition spirituelle à tous? La Bible nous dit que nous sommes nés dans le péché, que c'est un mal qui nous ronge et qui nous tient éloignés de Dieu. C'est pareil. Et du coup, ça veut dire que ce que Pierre lui dit alors nous concerne aussi, mais sur le plan spirituel. Donc regardez bien maintenant le verset 6, qui est le verset clé en fait dans le passage. La phrase que Pierre adresse à l'homme paralysé. Il le regarde, il lui dit, regarde-nous. L'homme regarde Pierre et Jean en s'attendant à recevoir de quelque chose. Mais Pierre lui dit, je ne possède ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà ce que dit Pierre à cet homme. Il lui dit, tu recherches quelque chose qui, tu penses, va t'aider, mais j'ai quelque chose de mieux à t'offrir. Il lui dit, tu vas pas assez loin en fait. Tu sous-estimes la profondeur de ton problème, tu sous-estimes la profondeur de tes besoins. va plus loin. Ce que tu me demandes, c'est une bonne chose en soi, l'argent et l'or, mais je ne vais pas te donner ça, je vais te donner quelque chose de mieux encore. Parce que essaye de réfléchir, si Pierre lui avait donné de l'argent, qu'est-ce qu'il aurait pu faire au mieux avec cet argent, cet homme? Vraie question. Essaye de réfléchir, essaye de me dire qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux avec cet argent, la première chose qu'il aurait peut-être dû faire. Vous avez une idée? Si vous étiez à sa place, qu'est-ce que vous auriez fait si vous avez reçu de l'argent, vous étiez dans cette situation? Pas d'idée? Se faire soigner, ok, ouais, si c'était possible de soigner sa maladie. Moi j'aurais pensé s'acheter des béquilles. S'acheter des béquilles. Alors peut-être s'acheter de la nourriture, mais s'acheter des béquilles. Mais ce qu'on voit, c'est que, effectivement, dès qu'on dit des choses comme ça, on se rend bien compte que la situation aurait été qu'il aurait juste pu rendre sa condition désespérée un peu meilleure, un peu plus supportable. Mais le problème de fond serait resté, le mal aurait toujours été là. Et donc Pierre lui dit, je vais pas te donner ça. Je vais te donner mieux. Et il ajoute donc, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et c'est important de voir que même ici, même pour lui, je crois, sa guérison physique, elle illustre sans doute la guérison spirituelle même du cœur. Pourquoi est-ce que je dis ça? On ne peut pas en être certain, mais on ne peut pas être certain qu'il s'est converti. Mais dans la suite du passage, on le voit louer Dieu au verset 9 et suivant. Il loue Dieu et puis on le voit suivre les disciples partout. Même au chapitre suivant, il est encore à suivre les disciples. Il veut rester avec eux. Et puis ce que Pierre dit au verset 16 est très fort. Regardez encore une fois au verset 16. Au milieu du verset, Pierre dit, c'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Et le complet rétablissement ici, ça va sans doute au-delà juste de la guérison physique et ça correspond peut-être plutôt à ce que Pierre promet en fait à ceux qui se repentent et qui croient dans la suite au verset 19, quand il dit aux Juifs qui sont là, ce qui est arrivé à cet homme, ça peut vous arriver à vous aussi. Il leur dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Enfin, bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est que peut-être qu'il s'est converti, qu'il est devenu chrétien, probablement que Pierre ne lui a pas juste donné de l'argent, ou juste de l'or, ni même juste la guérison, mais ce dont il avait vraiment le plus besoin. Une relation rétablie avec Dieu, le pardon des péchés. Et du coup, ça nous montre qu'il y a une histoire parallèle en fait à celle-là, que Luc nous raconte dans son évangile, puisque c'est Luc qui écrit les Actes, il raconte une histoire très proche dans son évangile. En Luc 15, vous vous rappelez peut-être cette histoire d'un paralytique, donc un infirme là aussi, qui est amené par ses amis dans la maison de Jésus. Seulement, il y a une telle foule qui est là et qui attend de pouvoir voir Jésus et d'être guéri, que ses amis font quoi? Ils montent sur le toit, c'est une histoire bien connue. Ils ouvrent le toit, ils font descendre leur ami dans la maison. Et vous vous rappelez, qu'est-ce que Jésus lui dit? Alors que quand il voit ce paralytique devant lui, plutôt que de lui dire « Lève-toi et marche », pour le coup, ce que cet homme attendait, qu'est-ce qu'il lui dit? « Tes péchés sont pardonnés. » Exactement. Alors mettez-vous à sa place. Qu'est-ce que vous auriez répondu à Jésus en entendant ça? Vous l'auriez dit, mais merci. Mais c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai un problème plus pressant que ça. Je crois que tout le monde peut le voir ici autour, sauf toi, Jésus. On parlera de religion, de spiritualité après, si tu veux bien. J'ai un besoin pressant. J'ai besoin de marcher. Et qu'est-ce que Jésus lui répond alors avec cette phrase? Il lui dit, non, c'est pas ce dont tu as le plus besoin. Non, c'est pas ton plus grand besoin, c'est pas ce qu'il te faut. Et Pierre dit en fait la même chose ici à cet homme. Il lui dit, t'as pas besoin d'argent et d'or. En fait, t'as même pas vraiment besoin de la guérison que je vais t'accorder. Au fond, ce que Jésus dit dans ce passage en Luc 15, c'est il est en train de dire à cet homme, il est en train de lui dire, ton plus grand besoin, c'est d'avoir une relation avec Dieu basée sur la grâce et le pardon. Aussi terribles que soient tes souffrances, aussi déterminé même que Dieu soit à mettre un terme aux souffrances, comme on l'a vu, ta souffrance n'est pas ton premier problème, c'est le péché. Et tant que tu n'as pas connu le pardon, l'amour de Dieu, ton plus grand besoin ne sera pas comblé. En fait, il est en train de lui dire ça à Jésus, si vous voulez le dire encore d'une autre manière, il est en train de lui dire, tu rêves de marcher, c'est normal. Toutes les personnes dans son cas, sans doute, rêvent de marcher, c'est juste. Mais il est en train de lui dire, tu penses probablement, ah, mais si seulement je pouvais marcher, tout irait bien dans ma vie. Je serais plus malheureux, tout serait parfait. Et Jésus lui dit, mais tu te trompes. Tu te trompes. Si je guéris ton corps et si je fais que ça, Oui, tu seras heureux sans doute, mais attends un mois, attends 3 mois, attends une année, ça va passer. Comment est-ce que je le sais? Parce que regarde les gens autour de toi, ceux qui marchent, ils ne sont pas heureux pour autant. Il est en train de lui dire, les racines de l'insatisfaction du cœur humain sont beaucoup plus profondes que ça, en fait. Et c'est ce que Pierre dit aussi ici. Il dit, je ne vais pas me contenter de te donner ce que tu penses avoir besoin de l'argent et de l'or, etc., et te laisser croire que tu as reçu ce que tu désires vraiment le plus profondément. Ce serait te tromper. Je ne vais pas te tromper. Et vous voyez, à un certain niveau, on est en fait tous ici dans cette pièce, vous l'avez certainement compris, on est tous un peu comme ces infirmes. On cherche de l'argent et de l'or. C'est-à-dire quelque chose ici-bas dont on pense, ah mais si seulement j'avais ci ou si seulement j'avais ça, je serais heureux. Si seulement mes désirs les plus profonds se réalisaient, alors tout irait bien. Et je ne parle pas simplement de choses, d'accord, de biens matériels, parce que ça, c'est de genre, si seulement j'avais cette voiture, ou si seulement j'avais cette maison, ou peu importe, parce que ça, c'est relativement évident que ça ne va pas combler nos attentes. On sait très bien, quand on aura cette voiture, on en voudra une plus grosse, et ainsi de suite, d'accord? Mais dans d'autres cas, c'est beaucoup moins évident. En particulier quand on demande à Dieu quelque chose de plus légitime. Je vous donne un exemple. Vous passez par une difficulté, une souffrance, et vous pensez, Seigneur, mais si seulement tu me sauvais de ce problème, cette épreuve, tout irait mieux. C'est ce dont j'ai le plus besoin en ce moment, Seigneur. Est-ce que tu ne peux pas répondre à ma prière-là? C'est ça dont j'ai le plus besoin maintenant. Et Jésus vous dit, avec ses histoires, avec amour et avec tendresse, mais il vous dit, non, ce n'est pas de ça dont tu as le plus besoin, c'est de moi dont tu as le plus besoin. C'est d'avoir notre cœur rempli par l'amour de Dieu et de son pardon. Voilà notre plus grand besoin. Pourquoi? Mais c'est finalement assez simple, parce que, vous voyez, à moins de connaître cet amour, à moins d'être assuré de cet avenir dont on a déjà parlé, cet avenir auprès du Seigneur, où il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, où le boiteux sautera comme un cerf, à moins d'avoir cette assurance du salut et de l'amour de Dieu pour nous, toute souffrance, qui reste difficile pour le croyant, mais toute souffrance sera insupportable. Par exemple, c'est une chose de subir une grosse perte d'argent, par exemple. Et même si on est assuré de l'amour de Dieu, pour un chrétien, ça reste quelque chose de terriblement difficile. Mais si votre sécurité se trouve dans cet argent, plutôt qu'en Dieu, vous allez être dévasté, vous allez faire naufrage. Ou c'est une chose de souffrir d'une grave maladie, c'est terrible, ça reste terrible pour un chrétien, et je ne minimise pas ça du tout. Mais si vous trouviez votre identité dans votre bonne santé ou dans les activités que vous pouviez faire avant, soit votre travail ou un sport ou peu importe, vous serez dévasté. Et ainsi de suite. Donc voilà ce que ce miracle signifie ici. Il dit tout ce que vous pouvez désirer, demander, même de parfaitement légitime. C'est légitime de demander à Dieu de nous faire du bien dans nos maladies et d'agir dans les moments difficiles de notre vie. Mais tout ce qu'on peut désirer ou demander ne va pas assez loin en fait. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Si vous l'obtenez, ça rendra juste votre condition un peu plus supportable, comme un boiteux qui reçoit des béquilles. Mais le problème de fond reste. Seule la guérison du cœur, seul Jésus peut l'accorder réellement. Donc ça, c'est ce que le miracle signifie pour nous. Et j'aimerais juste terminer avec un troisième point. Qu'est-ce que le miracle produit plus concrètement? Donc on a vu ce qu'il accomplit, ce qu'il signifie. Qu'est-ce qu'il doit produire en nous? Et j'ai retenu trois choses, on les a déjà toutes évoquées en passant, mais j'aimerais y revenir un peu plus en détail. D'abord, ce miracle produit une consolation dans nos épreuves. En tout cas, il nous amène à réfléchir sérieusement, profondément, aux souffrances et aux déceptions qu'on peut avoir dans notre vie. Parce que voilà ce que ce miracle nous rappelle. Il nous dit, Dieu a le pouvoir de mettre fin à l'épreuve par laquelle vous êtes en train de passer à n'importe quel moment. N'importe quelle épreuve. Lui qui a guéri cet homme-là en un instant, il a le pouvoir de le faire aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Il n'a pas changé. Jésus est le prince, il est l'auteur de la vie. Il peut vous guérir, vous, vos amis. Il peut résoudre vos problèmes familiaux. Il peut régler vos problèmes financiers et ainsi de suite. Peut-être que vous priez d'ailleurs régulièrement qu'il le fasse pour certaines choses dans votre vie. Mais peut-être que jusqu'à maintenant, il a choisi de ne pas le faire, de ne pas répondre. Pourquoi? Pourquoi Dieu, qui a le pouvoir de transformer votre vie de cette manière, d'enlever l'épreuve, d'enlever la maladie, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Alors, la réponse que certains donnent avec ce passage, c'est de dire, t'as juste pas assez de foi, en fait. Si seulement tu avais assez de foi, Dieu te guérirait. Regarde cet homme boiteux, c'est par la foi qu'il a été guéri. Est-ce que c'est une bonne réponse? Non, hein, parce que rien ne nous permet de penser dans ce passage que c'est en vertu de sa grande foi que cet homme a été guéri. En fait, c'est plutôt l'inverse. Oui, il avait la foi en Christ, mais vraiment, c'est la foi de Pierre qui est vraiment frappante dans ce passage. C'est Pierre qui lui dit par la foi en Jésus, lève-toi et marche. Pierre n'est pas là en train d'attendre que de voir quelle quantité de foi cet homme arrive à générer en lui-même par ses forces avant de lui dire bon ok c'est assez maintenant je te lève. Non, il vient vers lui, il lui dit simplement regarde-nous. L'homme a à peine le temps de regarder en s'attendant à recevoir quelque chose. Vous avez remarqué, il ne sait même pas ce qu'il attend. Il attend quelque chose que Pierre l'a déjà mis sur ses pieds. Donc ce n'est pas parce qu'on a trop peu de foi que Dieu permet que nous souffrions. Cet homme avait peu de foi. Peu de foi dans un immense sauveur, comme c'est notre cas à nous souvent aussi, n'est-ce pas? Alors pourquoi? On ne sait pas toujours pourquoi, mais on sait ce qui serait une mauvaise réponse à cette question. Ça ne peut pas être parce qu'il ne nous aime pas. Quand on regarde à Jésus-Christ, et c'est ce que Pierre fait dans la suite de son discours, quand il dit, regardez le verset 13, quand il parle de Jésus qui a été livré et renié devant Pilate, quand il dit au verset 14 qu'il a été échangé contre un meurtrier, quand il dit au verset 15 qu'il a été mis à mort, si on regarde à la croix du Christ et qu'on se pose, on se demande à nouveau, mais finalement, pourquoi Dieu permet cette souffrance dans ma vie ou que ce mal dans ma vie? On n'a toujours pas la réponse, mais on sait quelle réponse on peut éliminer. Ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. En fait, Dieu prend tellement au sérieux notre souffrance qu'il a accepté de s'en charger personnellement à la croix. Et est-ce que ça, ce n'est pas un réconfort extraordinaire dans nos épreuves? Même si on n'a pas la réponse au pourquoi, on sait quelle réponse est la mauvaise réponse. Ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Et au-delà de ça, c'est sûr qu'il y a une part de mystère, bien sûr, on sait que jusqu'à son retour, au retour de Christ, notre vie est rendue conforme à celle de notre Seigneur crucifié. Et c'est comme ça que Dieu nous fait persévérer dans la foi. Dieu doit parfois nous dire, comme il l'a fait à Paul, je te préfère comme ça, je te préfère avec cette écharde dans la chair, parce que j'aime le fruit d'humilité, de dépendance que ça produit dans ta vie, je te préfère comme ça. Donc voilà une explication qu'on peut donner à l'épreuve, la souffrance. Il y en a plein d'autres évidemment, mais c'est en étant unis à Jésus dans sa mort que nous serons aussi unis à lui dans sa vie. Prenez juste ces deux versets avec vous, Philippiens 3 et 2 Corinthiens 4. Paul dit « Mon but est de le connaître lui, Jésus, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. » Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Voilà la première chose peut-être que ce miracle doit produire en nous, une consolation dans l'épreuve. Deuxièmement, il produit une détermination face à la souffrance. Et là, je ne parle plus de notre souffrance à nous personnelle, mais je parle à celle qu'on voit autour de nous, l'injustice, la pauvreté, etc. Il arrive parfois qu'on demande, finalement, est-ce que les chrétiens doivent s'engager dans des actions sociales, etc. Est-ce que on devrait aider matériellement des gens? On parlait des migrants tout à l'heure ou des gens qu'on voit dans la rue. Ou est-ce qu'on doit simplement prêcher l'évangile finalement? Quelle est notre mission? Et on voit ici pour les disciples, c'est les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Ils ont guéri cet homme et ensuite ils lui ont annoncé l'évangile. Et c'est finalement assez logique. Si notre Dieu est déterminé à mettre un terme à la souffrance, comment est-ce que nous ne pourrions pas l'être aussi? Et il y a suffisamment de passages bibliques dans la Bible qui nous ordonnent de pratiquer la justice, de pratiquer le bien. Je vous en donne juste un, Galates 6, verset 10. « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » C'est un exemple qu'on a eu ce matin avec cette histoire de ces Iraniens à Toulouse, en Allemagne à Toulouse. C'est vraiment un ordre que Dieu nous donne. Si vous voyez une fonction des miracles de Jésus et des apôtres, c'est d'annoncer la venue du royaume quand il n'y a plus ni deuil ni larmes, que le boiteux sautera, etc. Comment est-ce que nous qui sommes citoyens du royaume dès maintenant, comment est-ce qu'on pourrait ne pas être déterminés à soulager la souffrance dès aujourd'hui et partout où on la voit. En n'oubliant pas une chose, bien sûr. Cet homme que Pierre a guéri, il est peut-être tombé malade en fait. Peut-être que dans son vieil âge, ses jambes ont à nouveau plus pu le porter, qu'il a dû reprendre ses béquilles. Et il a fini par mourir de toute façon. Et ça relativise tout le mal, tout le bien qu'on peut faire, n'est-ce pas? Ça enlève pas le fait que c'est bien et qu'on doit le faire, qu'on doit pratiquer le bien envers tous, mais ça relativise un peu. C'est bon d'aider les laissés pour compte, mais toute action sociale pallie uniquement aux besoins temporels, on pourrait dire, hein, terrestres. C'est pas assez, il faut autre chose. Et ça amène donc à mon dernier élément ici. Que ce miracle produit pour nous. Il produit une consolation dans l'épreuve, une détermination face à la souffrance. Enfin, il doit produire une passion pour l'évangile. C'est ça que on doit retenir, je pense. Quand on comprend les paroles de Pierre ici, qui dit finalement à cet homme, c'est pas de l'argent et de l'or dont tu as besoin, c'est même pas vraiment de la guérison physique. Tu sous-estimes tes besoins, tout ce dont tu penses avoir besoin pour être heureux, ça va te faire défaut, ça va décevoir tes attentes. Seul Dieu peut combler tes attentes. C'est pour lui que tu as été créé et tant que tu n'as pas été rétabli dans une relation avec lui, le vide, l'insatisfaction restera. Quand on comprend que c'est ça qu'il est en train de lui dire, on comprend que la seule chose dont nous avons le plus grand besoin, dont nos proches ont besoin, dont les gens autour de nous ont besoin, c'est l'évangile. Ça doit nous donner une passion pour l'annonce de l'évangile. C'est ça la mission vraiment de l'Église principale. C'est pour ça que Thomas d'Aquin, pour revenir à mon histoire du début, sans doute pour ça que Thomas d'Aquin était tellement désespéré que l'Église ne puisse plus dire au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il n'était pas désespéré qu'il n'y ait plus de miracles, c'est pas ça qu'il disait. Il était désespéré que l'Église avait perdu sa mission de vue, que elle avait plus cette passion pour l'Évangile, pour annoncer l'Évangile et voir des personnes être rétablies et des pécheurs sauvés. Alors, qu'est-ce qui peut nous donner cette passion pour l'Évangile? Puisque c'est ça qu'on doit retenir à la fin. Qu'est-ce qui peut nous donner cette passion? C'est l'Évangile lui-même. Regardez le verset 18. Pierre dit, mais Dieu a de la sorte, par les actions des Juifs qui ont crucifié Christ, mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. La mort de Christ. Il y a quelque chose qui est vrai, et je conclurai par là, il y a quelque chose qui est vrai, peut-être pas de tous les miracles dans la Bible, mais en tout cas de celui-ci et de plusieurs. Celui qui fait le miracle se rend toujours vulnérable. Il se met en danger, il se met en péril. Je vous ai dit, Pierre et Jean, ils vont être arrêtés dans la foulée, c'est ce qui arrive dès le premier verset du chapitre 4. Ils sont sur le point d'être arrêtés et mis en prison. Ils sont mis en danger pour ce miracle. Et si vous regardez la vie de Jésus, ça arrive aussi plusieurs fois. Pensez à Lazare en Jean 11. Vous vous souvenez quand Jésus vient au tombeau de Lazare, et Lazare est là dans le tombeau, il est mort, et Jésus dit « Lazare sort !» Et Lazare ressuscite, extraordinaire. Mais vous vous souvenez ce qu'il nous est dit directement dans la suite de ce passage? Il nous est dit que le Sanhédrin s'assembla, les chefs juifs s'assemblèrent, et dès ce jour, donc le moment où il a ressuscité Lazare, ils résolurent de le faire mourir. Jésus ne pouvait pas faire sortir Lazare du tombeau sans y entrer lui-même. Vous pensez à la femme qu'il a juste touchée dans la foule. Vous vous souvenez, cette femme qui a touché juste la frange de son vêtement quand Jésus suivait Jaïrus parce que sa fille était mourante. Il suivait Jaïrus dans la foule, tout le monde le touchait et d'un coup une femme malade touche la frange de son vêtement et elle est guérie. Et vous vous rappelez de ce qu'il nous a dit là aussi. C'est frappant, il nous a dit. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et c'est comme si, même avec les miracles, il y a presque comme une forme de substitution. La faiblesse de cette femme est transférée à Jésus, et sa force à lui est transférée à cette femme. Et elle est guérie. Et oui, c'est ça qui est frappant. Et on revient juste à ce que je disais sur le fait que les miracles ne sont pas juste une démonstration, une simple démonstration de force. La Bible, ce n'est pas une de ces anciennes légendes ou mythologies avec des super-héros qui ont des super-pouvoirs. Non. Que ce soit des anciennes légendes ou ces films modernes, hein, avec des super-héros et ça. Quel est l'intérêt de ces super-pouvoirs? C'est d'être invulnérables, hein, n'est-ce pas? C'est ça qu'on voit dans dans ces films. Ils sont invulnérables. Ils peuvent faire des cascades pendant 2 heures de film. À la fin, ils sont toujours sans égratignure. Les miracles de Jésus et des disciples, ça fait exactement l'inverse. Ça les rend vulnérables. Et le plus grand miracle de tous, Dieu qui se fait homme pour notre salut, par ce miracle-là, Dieu s'est rendu vulnérable. Il s'est rendu attaquable. Il s'est rendu mortel. Pourquoi Jésus n'est pas venu sur la terre avec la puissance pour détruire le mal et faire cesser la souffrance en un instant? Parce que s'il l'avait fait, on ne serait plus là pour en parler. Si Christ était venu avec la puissance pour anéantir le mal, il aurait dû nous anéantir avec. Et c'est pour ça qu'il est venu dans la faiblesse. Dans la faiblesse, mourir sur la croix pour que nous puissions être sauvés. Donc voilà ce qui doit nous donner une passion pour l'évangile, de voir la gloire de notre Sauveur qui s'humilie, qui se rend vulnérable pour nous, qui se donne pour nous. C'est ça qui doit nous donner ce feu, cette passion pour nous-mêmes, aller après nous mettre dans des situations où on est nous vulnérables bien souvent, n'est-ce pas, quand on partage l'évangile. Mais le faire par amour pour notre Sauveur, pour sa gloire. Amen. J'ai juste terminé par la prière. Prions. Seigneur éternel, combien il est difficile pour nous de comprendre ta gloire, d'en rendre compte, de pouvoir cerner combien tu nous aimes et combien cette relation avec toi, de pardon, d'amour, de réconciliation, est tellement la chose la plus importante dont nous avons besoin. Mais nous te prions, Seigneur, que tu nous encourages par ce miracle que nous avons vu ce matin à te rechercher toi premièrement, à voir que ce dont nous avons le plus besoin, Seigneur, ce n'est pas que tu règles tous les problèmes que nous pouvons connaître dans notre vie, mais c'est premièrement, avant tout, que tu règles notre situation avec toi, et que si nous t'appartenons, Seigneur, que tu nous attires toujours plus proche de toi. Nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes cette foi et cette humilité pour marcher parfois dans le chemin de la souffrance à tes côtés. Dans le nom de Jésus. Amen.
Nous allons répondre.